Bonjour, très chers auditeurs de Guette-moi. Aujourd'hui, je suis extrêmement ravi parce que nous avons avec nous Christophe Steiger. Donc, on va commencer tout de suite par la première question. Christophe, qui es-tu?
Donc, j'ai deux identités, en fait, une professionnelle de base pour gagner ma vie qui est actuaire. J'ai choisi ce métier. Parce que dans mon adolescence, j'étais mal dans ma peau, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc j'ai cherché un métier qui rapporte et qui n'est pas trop stressant. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi ce métier. Puis j'ai l'autre identité qui est enseignant de yoga et de méditation. J'en suis venu là aussi à cause de mes questionnements existentiels. Quand j'étais petit, je me posais beaucoup de questions existentielles jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Chaque fois que je croisais un adulte, je lui posais des questions sur le sens de la vie, l'origine de la vie, pourquoi est-ce qu'il y avait tellement de méchanceté sur Terre, enfin plein de questions existentielles. J'avais jamais de réponse satisfaisante. Et à l'adolescence, ces questions m'ont un peu quitté. J'étais en mode, j'allais étudier jusqu'à l'université pour tout comprendre. Et en arrivant à l'université, en mathématiques, en physique, ça devenait extrêmement clair. Que personne savait et que la voie purement rationnelle était une voie sans issue. Par exemple, il y a un mathématicien qui s'appelle Gödel qui a démontré qu'une théorie mathématique elle est soit incomplète, soit fausse. Et donc c'était très très perturbant pour moi. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie. Et aux traditions religieuses et spirituelles. Et puis là, en ayant tout compris, ma frustration était toujours la même. Et puis ce qui s'est aussi passé rapidement, c'est que j'ai rapidement eu un métier satisfaisant où je gagnais enfin, beaucoup d'argent par rapport à ce que j'avais besoin. J'avais des relations satisfaisantes, j'avais de la reconnaissance dans mon travail. J'avais vraiment tout parfait dans ma vie et j'étais toujours frustré pareil. Donc, avec un bon travail, des bonnes circonstances et avec une compréhension intellectuelle des concepts philosophiques, religieux, spirituels, j'étais toujours frustré pareil. Et donc là, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelqu'un qui a l'expérience du bonheur que je cherche sans clairement savoir ce que c'était ce bonheur que je cherchais. Et puis j'ai trouvé un yogi. Qui visiblement baignait dans la béatitude tout le temps sans raison. Et
Alors juste, si je puis me
donc,
permettre,
oui.
comment on trouve quelqu'un comme ça? Parce que là, quand tu dis, je me suis dit, j'ai réfléchi moi-même, est-ce que bon, je connais personne qui baigne dans ce... À part toi qui a vachement avancé là-dessus, j'ai dit, mais si je voulais, comment est-ce que je pourrais trouver quelqu'un comme ça? Pourtant, avec Internet, tout ça devait être super facile, mais je ne saurais même pas par où commencer.
Ce qui s'est passé, c'est que il y a deux fois dans ma vie où quand je lisais un livre, j'avais vraiment l'impression que l'auteur était derrière mon épaule et puis était là dans la pièce avec moi en train de lire, en train de
D'accord.
m'inspirer. Une fois, c'était un livre qui parlait de Jésus, c'était un channel qui reportait des histoires sur Jésus qu'il aurait reçu en channeling. Et puis là, j'avais vraiment l'impression que Jésus était là. J'ai même eu une vision de lui avec deux de ses disciples. C'était assez intéressant. Enfin, il s'est passé quelques années. Et après, j'ai lu un livre qui s'appelle Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda. Et là, vraiment, c'était vraiment fort. Là, vraiment, chaque fois que j'ouvrais le livre, je sentais cette présence dans la pièce. C'était énorme. Donc, je m'étais dit, bon, visiblement, ce Yogananda, dans le texte qu'il écrit, il était dans cet état. Il a rencontré plein de gens dans cet état. Et puis ils vendent une technique qui s'appelle le Kriya Yoga. Et donc après j'ai cherché sur Internet des Kriya Yogis. Tout ce que j'ai trouvé, c'était pas, ça me parlait pas vraiment. Jusqu'à ce que je vois une affiche dans ma ville pour un cours de Kriya Yoga. Alors là je suis allé. Et là la seconde où j'ai vu ce monsieur, j'ai vu qu'il avait ce que je voulais.
D'accord.
Mais c'est difficile de le provoquer, mais ce qui est dit dans les traditions indiennes, c'est que quand le disciple est prêt, le gourou vient. C'est le gourou qui trouve le disciple.
Intéressant.
En tout cas, là, il y a eu des expériences assez fortes.
D'accord. Et combien de temps tu as tu as c'est pas le mot travailler n'est pas le bon mot combien de temps as-tu appris de cette personne? Est-ce que tu
Alors,
continues?
oui, je continue. Je l'ai suivi de près pendant 13 ans. Ça s'est terminé en 2011 parce qu'il est parti, il est décédé.
C'est une bonne raison.
Mais j'ai pu donc le suivre de près pendant 13 ans. Et les premières années de pratique de la méditation, en fait, il y a un nettoyage émotionnel qui s'est produit, qui était relativement pénible. C'est-à-dire qu'il y avait en même temps des expériences en méditation super sympas, avec des visions super sympas, mais aussi un nettoyage émotionnel. C'est-à-dire que pendant une année, j'étais dans une profonde tristesse. Chaque fois que je m'asseyais, je sentais de la tristesse qui remontait. Ensuite, pendant un moment, j'étais tranquille. Puis ensuite, pendant 2 ou 3 ans, chaque fois que je m'asseyais pour méditer, je sentais des vagues de haine qui remontaient en moi. C'était assez pénible. Mais ça s'est terminé. Et maintenant, quand je m'assieds à l'arrêt de bus pour attendre le bus ou pour méditer, en fait, il n'y a rien. Il y a une ouverture, je me sens immense, je sens ma conscience qui s'étend à tout l'environnement, à la terre, à l'univers. Et puis il y a une paix incroyable qui est là. En fait, il y a une conscience, une présence qui est fondamentalement qui je suis, qui est béatitude. Et puis le fait d'avoir cette perception-là naturellement, ça enlève complètement les souffrances psychologiques. Dans une telle perspective, les problèmes mondains sont des problèmes de surface. Dans le fond, il n'y a jamais de problème.
D'accord. Donc en fait, c'est intéressant. Il y a eu comme un espèce de nettoyage du négatif et en plus par bloc de ce que tu dis. La tristesse d'abord, la haine ensuite. Est-ce qu'on peut le dire
Ouais,
comme ça ou...
moi je pense que pour chacun, l'expérience est différente. Par contre, l'agitation mentale, elle est liée à nos mémoires émotionnelles. Et puis, il semble que quand les mémoires émotionnelles sont suffisamment effacées, spontanément, naturellement, on arrive dans des états de méditation, de vision claire. Voilà.
Oui, un truc qui m'avait marqué, parce qu'avant ce podcast, on a bien sûr une conversation, ce qui m'a marqué, c'est que tu as dit que tu as beaucoup de mal à te rappeler de qui tu étais avant, que tu es
Oui,
maintenant qui
oui,
tu
oui.
es, et que la personne que tu étais avant, bon, quelque part, ce petit garçon perturbé qui cherchait à comprendre, c'est bon, maintenant ça s'est réglé. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Oui, j'ai vraiment fait un effort de mémoire pour me rappeler quelles étaient mes perceptions, comment je voyais la vie, qui je pensais être. Parce que vraiment, mon identité, elle a beaucoup, beaucoup changé. Et puis si on me demande qui es-tu, ça me demande un effort vraiment grand pour essayer de faire quelque chose de petit et d'exprimable. Parce que la réaction première, ça serait de dire des trucs un peu fous comme je suis la conscience source, je suis le sans cause. Ça serait
Ah, c'est
pas
clair.
recevable. Mais
Ouais, dans le
c'est la
monde actuel,
sensation.
ouais, c'est ouais, avec l'esprit un peu étroit des gens, ça doit pas passer très très bien.
Non, 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 c'est qui s'est illuminé?
Ouais. Alors justement, si on parle d'illuminé, bon, nous on a bien raisonné là-dessus. Je pense que les auditeurs, comme issus d'un podcast qui me correspond, doivent raisonner aussi là-dessus. Mais des gens qui ne raisonnent pas, comment, alors à part les ignorer complètement, ce qui est une solution de facilité, comment tu gères les gens qui n'impriment pas ce genre de concept ou qui ne sont pas capables de voir ça ou autre? Est-ce que c'est de l'ignorance,
Alors,
tu les ignores complètement, tu les effaces, ou est-ce qu'ils sont tout autour, quoi?
dans le début de ce chemin, il y a un passage où on est moins fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'on se met en réaction par rapport au monde, avec toutes ces caractéristiques d'attachement, d'ego, etc. Mais par contre, on n'est pas vraiment établi dans le monde spirituel. Et donc là, il y a une tension, ce qui fait qu'on est presque moins fonctionnel au début du chemin spirituel qu'avant. On a la
D'accord.
peine à rester dans les habitudes, on a la peine à rester dans la prostitution, on a la peine à se soumettre aux diktats du monde, mais on n'est pas non plus établi dans le monde spirituel. Donc c'est vraiment dur. Par contre, une fois qu'on atteint le calme, on devient vraiment fonctionnel. Donc quand je rencontre des gens qui n'ont pas ces perceptions, je reste fonctionnel à leur niveau.
D'accord.
Je comprends ce qu'ils peuvent comprendre et puis je ne les perturbe pas avec mes idées.
D'accord. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a dans cette approche un objectif final ou c'est juste une manière d'être?
Il y a un objectif premier qui est de mettre fin à la souffrance psychologique,
La sienne.
la sienne propre. C'est-à-dire
Ouais.
qu'avec ce chemin, l'avantage principal, c'est qu'on peut mettre fin à la souffrance psychologique. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt de la prostitution. Ou si tu veux, là, la plupart des gens, ils vivent comme des chiens, c'est-à-dire qu'ils sont emportés par leur sens. Ils vont d'une tentation à l'autre, d'un désir à l'autre, puis ils essaient de satisfaire. En fait, leur mental est emporté par le désir d'avoir des expériences. Et puis là, on n'en parle pas. Alors qu'une fois qu'on a fait ce chemin, on est conscient. Avec cette conscience, on contrôle le mental. Avec le mental, on contrôle les sens. Ça
D'accord.
paraît froid comme ça, mais on baigne dans la béatitude. Donc, il n'y a pas de. Enfin, c'est mieux, c'est clairement mieux après qu'avant. Et une fois qu'on a atteint cette capacité de contrôler son mental, on commence à avoir les outils pour explorer les mondes spirituels. Donc ça, le chemin s'arrête pas là. Mais la première étape, c'est de mettre fin à la souffrance.
D'accord. Et dans le monde actuel où tout le monde veut tout de suite, alors là, directement, l'auditoire, c'est plus du chef d'entreprise et de l'entrepreneur, donc des gens qui comprennent que rien ne vient gratuitement et instantanément. Pour commencer, alors bien sûr, je suppose que ça dépend de chacun, de voir des résultats sur un cheminement pareil, il faut prendre combien de temps?
Alors, bon déjà, il faut avoir une motivation. Donc, je pense que le premier point, c'est de s'asseoir régulièrement, juste pour se poser la question, voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? De quoi je suis content? De quoi je ne suis pas content? Qu'est-ce que je veux cultiver demain? Qu'est-ce que je veux plus faire à l'avenir? Pour avoir une direction. Si on s'arrête jamais, je pense qu'on se fait emporter par la vie dans des directions qu'on ne choisit pas forcément. Donc, le fait de
D'accord.
prendre quelques minutes par jour pour revoir sa journée et se demander qu'est-ce qu'on veut, dans quelle direction on veut s'orienter demain. Ça, c'est le début. Il y a immédiatement des résultats. Ensuite, pour se lancer dans un chemin spirituel, il faut avoir perdu l'espoir que une expérience quelconque nous amènera à une satisfaction durable.
D'accord.
Puis tant qu'on est dans des espoirs que le monde va nous satisfaire, ben on peut y aller. Mais un jour, c'est clair, on se rend compte que rien dans le monde peut nous satisfaire durablement.
Ouais, disons
Et
qu'il faut
après,
prendre les choses en main.
une fois qu'on commence à méditer, les fruits viennent vite, ils viennent très vite. Par exemple, on a une meilleure santé, on a un meilleur sommeil, on a moins de problèmes psychologiques, comme on se prostitue moins assez rapidement, ben on prend moins de mauvaises décisions. Donc, on a rapidement des effets positifs. Dans les semaines qui suivent le début de la méditation, on a des ressorts positifs. Par contre, en général, pour aller loin, il faut des années.
Et donc, pour commencer cette méditation et ressentir pour commencer à se sentir bien, où est-ce qu'il faut aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la méditation, beaucoup de gens en parlent. Clairement, des gens qui cherchent à avancer un peu aussi bien spirituellement que pour eux-mêmes. Et alors, il y en a qui disent qu'il faut aller sur YouTube, tu te prends une vidéo avec un type qui parle et puis qu'il y a de la musique, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est s'asseoir et puis tranquillement ne plus stopper ses pensées? Quelle suggestion tu pourrais faire pour que les gens
Bon, si
appréhendent
on
la
veut
chose plus
apprendre,
facilement?
si on veut apprendre à jouer du violon, qu'est-ce qu'on fait? On va sur YouTube.
Par exemple, on prend un professeur.
Alors, entre aller sur YouTube et puis prendre un professeur, je pense que les deux sont possibles, mais
Ouais.
qu'avec un bon prof, en présence de quelqu'un qui sait jouer du violon, c'est plus facile.
Ouais, d'accord.
Et donc là, idéalement, il faudrait trouver quelqu'un en présentiel qui est avancé dans la méditation. Ouais. Donc pour moi, le chemin, il est 2 fois plus facile avec un prof que sans. Il n'est pas impossible sans, mais
D'accord.
avec, c'est mieux. Puis après, les bases de la méditation, la meilleure technique, c'est la mienne, évidemment, c'est le Kriya Yoga, mais toutes les techniques qui combinent Attention sur la respiration, visualisation, mantra, potentiellement fonctionne.
D'accord. Et il faut prendre combien de temps par jour pour faire ça?
Le,
Alors,
le...
c'est très
Voilà.
limitant comme question, j'entends bien.
Ouais. Idéalement, si quelqu'un est sérieusement intéressé, il devrait s'asseoir 2 fois par jour, chaque matin, chaque soir.
Ouais.
Et au début, au moins une demi-heure chaque fois.
D'accord. D'accord.
Parce qu'il faut presque un quart d'heure, 1 minute au début pour rentrer dans un état de calme. Donc, pour profiter un peu, il faut une demi-heure. Idéalement, il faudrait peut-être faire, je sais pas, une des deux méditations, une demi-heure, et puis l'autre, 1 heure et demie, 2 heures.
Ah ouais.
Oui.
Ouais.
Par
Dans mon
contre,
actuel, c'est compliqué.
ce temps se récupère sur le sommeil parce que le sommeil est plus efficace, on en a besoin de moins.
D'accord. Donc toi, tu dors combien de temps? Par jour, j'entends.
Ouais, environ 6 heures.
Ouais, d'accord. Donc c'est on
Je
n'est
dors
pas
quand
loin
même,
d'un
oui.
temps de sommeil normal.
Ouais, non. Mais les grands yogis, certains ont plus besoin de dormir.
Ok. Mais là, on parle à des gens qui bossent comme des brutes pour atteindre des objectifs.
Ouais, alors, mais au moins 2 demi-heures. Mais ce temps, il est largement regagné dans la journée. Parce que si on a l'esprit plus clair, et puis qu'on sait où on va, puis qu'on fait ce qu'on doit et pas ce qu'on a envie de faire, on gagne un temps fou.
Alors, une question un peu tordue peut-être. Est-ce qu'on peut méditer pendant qu'on fait du sport?
Non. Alors, enfin, il faut répondre en deux étapes. D'abord, pour méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir toutes ces pensées qui coulent de façon ininterrompue avec un objet. Et donc, si pendant que tu cours, tu n'as plus aucune perception du sol, de tes jambes, de l'environnement, qu'est-ce qui se passe?
Il pourrait que ça se
C'est pas terrible.
termine par
Oui,
terre.
ça oui. Donc, pour avoir toutes ces pensées sur un objet, qui peut être subtil, hein, ça peut être la lumière, ça peut être voilà, n'importe quoi, on est obligé de se couper des sens. Donc on ne peut pas le faire autrement que assis ou éventuellement allongé. Mais allongé, les gens s'endorment. Donc assis, il faut être assis.
D'accord.
Et une fois que le mental est maîtrisé, il y a une forme de méditation qu'il y a tout le temps. Donc,
D'accord.
dans toutes les activités, toute la journée, tout le temps.
Ouais, donc là, il faut déjà atteindre un certain niveau d'expérience, je
Voilà.
suppose. Ouais.
Ouais. Et puis, c'est spontané, il n'y a pas besoin de faire exprès. Mais au
Intéressant.
début, il faut vraiment s'asseoir. Il n'y a pas de
D'accord.
méditation. Si on met de la musique, par exemple, bah, tant qu'on entend la musique, on ne médite pas. La méditation, c'est quand on a toutes les pensées sur un seul objet.
Donc, il faut vraiment un endroit calme.
Non, il faut s'intérioriser.
D'accord.
Les Indiens, ils n'ont pas d'endroit calme. Ils méditent quand même.
D'accord. Mais pour commencer, je suppose, pour des bonnets comme nous, dans
C'est plus
une
simple,
ultra active,
c'est sûr que c'est plus simple.
c'est plus ça. Et est-ce que toi, tu transmets ton savoir? Est-ce que tu enseignes? Est-ce qu'il y a des gens qui te suivent? Est-ce que...
Alors, j'ai été récemment autorisé à enseigner le Kriya Yoga.
Ah, il faut être autorisé.
Dans cette tradition-là, oui. L'idée,
D'accord.
c'est que l'enseignant, il a une responsabilité et qu'il ne faudrait pas que l'enseignant soit un guignol. Quand on commence sur un chemin, on apprend beaucoup de choses, puis on a rapidement l'impression de tout savoir, puis on
Ouais.
a envie d'enseigner. Mais en fait, on n'est pas mûr. Donc là, dans la tradition du Kriya Yoga, il y a cette idée qu'effectivement, on doit être autorisé à enseigner avant d'enseigner.
D'accord.
Ce n'est pas quelque chose de vraiment spécial, mais ça veut dire que là l'enseignant, maintenant, mon enseignant me fait confiance que je suis mûr pour enseigner.
Pour
Donc,
transmettre, ouais.
je le fais. Pour l'instant, il n'y a pas foule, mais j'ai quelques élèves.
Excellent, excellent. Oui, j'imagine parce que c'est pareil dans le coaching, nous on le voit, c'est tout le monde depuis la crise de la COVID est devenu coach et en fait, eux sont certifiés et capables de le faire. Et là, effectivement, il n'y a pas cette espèce de tradition de je t'autorise à coacher. Il vaut mieux aller quelqu'un de certifié que le premier zébulon qui s'annonce coach. Donc, c'est bien que vous ayez cette tradition, c'est plus propre, dirais-je.
Oui, c'est plus propre, ça fait plus simple aussi pour les gens qui qui cherchent un enseignant d'avoir un peu une certaine sécurité qu'il est compétent. Après, les profs de yoga et les coachs qui sont incompétents, en général, ils drainent pas full. C'est pas trop problématique non plus.
Ouais, mais il faut que le filtrage se fasse. Et pendant ce temps-là, les bons perdent du temps. Ouais. Alors, la question habituelle, la deuxième question, c'est pourquoi fais-tu ce que tu fais? Mais ça, tu nous l'as expliqué, tu l'as largement expliqué. Jusqu'où tu penses pouvoir aller?
C'est une question un peu intime. Disons que la première étape pour moi, ça serait d'être capable de partir consciemment. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir, quand c'est l'heure, m'asseoir en méditation et partir.
D'accord.
Donc j'aimerais pas mourir sans être pleinement conscient.
Ouais, ou pas un truc claque, un accident, quelque chose comme ça.
Voilà. Et ça demande une grande maîtrise. Mais il y a des yogis qui font ça, ils organisent une grande fête,
Ouais.
ils nourrissent plein de gens, et à la fin, ils s'assirent en méditation et ils partent. Ça, c'est vraiment la classe absolue, je trouve.
Mais faut un contrôle pour savoir quand on va partir, en fait.
Oui, mais en
Après, on dit que les
général,
gens le sentent, ouais, les gens le sentent.
ouais, on le sait quelques jours avant.
Et moi,
Certains
ce que je
yogis ont
trouve impressionnant,
l'intuition.
c'est que tu appelles ça la première étape.
Oui, parce qu'après,
C'est-à-dire qu'après
il y a
tout,
beau.
après toutes ces années, tu n'as pas encore atteint une étape, en fait. Tu es en.
Ouais, alors il y en a une, c'est que je vois que je suis la conscience avant le mental tout le temps. Puis que cette lumière de la conscience, elle s'éteint pas. Même quand je dors, je suis toujours là. Je suis toujours conscient, témoin. Donc là, ça c'est une étape sympa parce que c'est rare que je me fasse vraiment avoir par des émotions négatives, que je m'attache à des problèmes. Donc en fait, c'est déjà pas mal. Mais il y a une étape qui s'appelle Nirvikalpa Samadhi, où on arrive à rentrer dans une méditation tellement profonde qu'il n'y a plus de traces du tout de quelqu'un. Donc ça, cet état, je ne l'ai pas encore expérimenté. Et puis une étape après, c'est d'arriver à le moment venu à partir consciemment. Et puis après, avec ces outils-là, avec l'outil du samadhi, qui est une forme de méditation, on peut explorer les mondes spirituels. Après, il y a un travail à faire dans le monde astral, et puis après, il y a un travail à faire dans le monde causal. Peut-être qu'on est destiné à devenir des créateurs d'univers. Donc le chemin, il est extrêmement long et riche.
Moi, je veux dire, c'est l'engagement d'une vie, alors le une entre guillemets, hein, d'une vie. Et sachant que biologiquement, il y a à un moment donné, il y a une limite, est-ce que ce n'est pas frustrant quelque part? Ou non, au contraire?
Non, c'est assez frustrant. C'est comme quand on est sur un chemin de montagne, qu'on voit le sommet, qu'on monte, qu'on monte, qu'on monte, puis qu'on n'y est jamais, quoi. On a l'impression qu'on n'y sera jamais, mais on monte quand même. Il y a ça.
Poussé par une motivation, quoi.
Il faut garder la motivation, puis il faut continuer, oui.
Et comment, parce que tu es un homme moderne, tu vis, tu travailles, comment ça fonctionne avec bah, une vie de couple, avec une vie de, bah, une vie de boulot, avec les collègues ou autres? On est quand même sur un autre niveau de résonance, de
Ouais.
fonctionnement.
Au travail, c'est facile. C'est facile parce que, comme je disais, on devient plus fonctionnel, plus intuitif, plus réceptif aux besoins des personnes qu'on croise, clients ou collègues. Donc, en fait, on devient très fonctionnel et bien inspiré. Facile. Dans la vie de couple, c'est moins facile. Par exemple, le fait de ne pas avoir d'attachement fait que ça devient difficile d'être romantique.
D'accord.
Parce que si on aime, c'est parce qu'on est l'amour. Si on est l'amour, on aime tout le monde, mais on n'aime pas quelqu'un en particulier. Alors, on choisit de livrer quelqu'un en particulier, mais il n'y a personne de vraiment plus particulier que les autres. Donc, au fait, ça change profondément les relations dans le couple. Donc, ce n'est pas forcément facile. Et de vivre avec quelqu'un qui ne comprend absolument pas l'état dans lequel on est, ce n'est pas simple.
Et est-ce que c'est ton cas ou non? Enfin, nous, on a déjà parlé, mais bon, pour les
Ma
auditeurs.
femme, elle a des intérêts spirituels aussi, donc on se comprend d'une certaine manière, mais elle a aucune idée de ce que je vis intérieurement.
D'accord.
Elle comprend pas. Quand je lui dis, enfin, parce qu'elle est très catholique, quand je lui dis que je vois le Christ, ça la dépasse totalement.
Est-ce que... Alors... Question comme ça, tu ne vois que le Christ ou tu vois aussi ses autres collègues des autres religions?
Non, le Christ, c'est la deuxième personne de Dieu, c'est le reflet de la
Ouais.
conscience du Père dans le mental.
Ouais.
C'est pas quelqu'un.
D'accord. Donc c'est
Après,
un nom
après,
qu'on met nous dans
après.
notre culture et dans
Voilà.
les autres cultures, il donne un autre nom.
Voilà. Alors, non, enfin oui et non. Dans la tradition hindoue, ça s'appelle Kutastha Chaitanya. C'est la conscience du sixième œil. En gros, dans les méditations, parfois, on peut voir des êtres de lumière. Et donc, on peut avoir des conversations avec Jésus, avec Bouddha, avec Saint François d'Assise, avec d'autres éminents maîtres qui sont encore dans la sphère terrestre pour aider. Donc, j'ai eu une fois une vision de Jésus il y a longtemps. Mais quand je dis je vois le Christ, ça veut dire qu'en fait tout le temps je vois la présence du divin reflétée dans le monde entier, dans tout objet, dans tout espace, dans toute particule d'air, dans chaque, voilà, partout.
OK.
En ce sens-là.
D'accord, c'est passionnant. Passionnant. Donc effectivement, je comprends que c'est compliqué. C'est compliqué. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs ou quelle pensée profonde pourrais-tu donner aux auditeurs qui sont, bah, comme on disait, souvent des entrepreneurs, des chefs d'entreprise? Comment est-ce qu'on tu pourrais les aider par quelques mots?
Oui, deux, trois étapes. La première, s'asseoir dans le silence pour se poser la question, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'étais content? Pourquoi est-ce que j'ai insulté la caissière? Est-ce que la prochaine fois, il faut que je fasse attention de ne pas transmettre mes émotions négatives aux autres. Ou, enfin, je sais pas, n'importe où. Bien, si ce business me convient pas, j'en ai marre de vendre des produits que j'aime pas. Juste s'asseoir pour se poser la question, qu'est-ce que j'ai, où je veux aller? Ça, c'est essentiel. Sans ça, c'est la base du coaching, j'imagine, de se poser cette question, qu'est-ce que je veux? Une fois qu'on sait ce qu'on veut, il faut y aller. Il faut beaucoup d'énergie pendant longtemps dans la même direction. Sans cette discipline, sans cette ascèse, sans ce feu, on peut rien atteindre de valable. Et puis, je dirais qu'une clé pour tenir la longueur, c'est de ne pas être attaché au résultat. C'est-à-dire que je veux aller là, je fais les efforts qu'il faut dans une direction, mais que ça vienne ou que ça vienne pas, je ne m'afflige pas, je ne me réjouis pas. C'est-à-dire que je ne fais pas l'ascenseur émotionnel. Je reste non attaché, je remets dans les mains de l'univers le résultat. Ce que je contrôle, c'est le chemin, c'est qu'est-ce que je fais, c'est où je vais. Mais par contre, le résultat, je ne contrôle pas. Si je réussis, je remercierai l'univers de m'avoir donné les éléments qu'il fallait pour. Et puis si j'échoue, je dirais à l'univers, voilà, bon, t'as échoué. Je sais pas pourquoi, mais il y a sûrement une bonne raison. Et puis, soit je recommence autre chose, soit je continue, je sais pas. Mais le non-attachement permet de vivre beaucoup mieux. Et puis d'avoir plus d'énergie à disposition, aussi, je pense.
D'accord, excellent. Si les gens veulent aller plus loin dans la conversation avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Comment est-ce qu'ils peuvent se mettre en relation avec toi?
Alors, j'ai un site internet qui s'appelle oui.ch, oui.ch. Donc,
D'accord.
ça c'est le premier point de contact.
OK. Et ils peuvent te trouver aussi sur LinkedIn éventuellement?
Oui, donc, comme actuaire, oui.
D'accord, donc Christophe Steiger.
Christophe Steiger, voilà.
Alors pour les Français, Steiger, ça s'écrit Steiger. ER, si je ne me trompe pas.
Oui.
Hein. Voilà. Bah, Christophe, un immense merci. C'était qu'une demi-heure parce que je sais qu'on pourrait parler pendant des heures de tous ces sujets. Mais moi, je tenais à te remercier immensément pour ce partage avec nous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de te réentendre un de ces jours.
Ouais, merci volontiers.